tous, nous voilà réunis pour une nouvelle émission d'Ondes Positives. Installez-vous confortablement, l'objectif est de passer un bon moment et d'ouvrir des portes vers un monde aussi positif que possible. Aujourd'hui, j'accueille pour m'accompagner Patricia Rénal.
Bonjour Dorothée.
Bonjour Patricia. Patricia, tu es commerçante.
Oui.
Tu as une boutique rue Marie-Lafon à Montauban qui s'appelle Les Arts de Marielle.
Tout à fait.
Et tu es artiste puisque ce que tu vends dans ta boutique, c'est bien souvent toi qui l'as fait.
Oui.
Donc tableaux, bijoux, meubles en carton. Nous en parlerons tout à l'heure au cours de l'émission. Et tu es venue nous donner ton message positif qui est le suivant. Vous pouvez imaginer et créer votre vie.
Absolument.
Alors, ça veut dire que ça aide dans la vie d'imaginer sa vie ?
Ah, mais c'est essentiel, je trouve. Enfin bon, il faut vraiment ouvrir l'esprit et imaginer. Oui,
ouais.
Bien sûr.
Donc, quand tu dis imaginer, c'est quoi ? C'est rêver ? Rêver sa vie de demain ? Rêver sa vie d'aujourd'hui ?
Rêver sa vie d'aujourd'hui, je crois. Demain, il vient au fur et à mesure. Hein.
Mm-hmm.
Et les choses évoluent. Donc, je pense qu'il faut rester plus dans le présent.
Mmh.
Et puis imaginer, voilà, ce qu'on veut faire là, maintenant, les envies. C'est l'envie qui compte.
D'accord, prendre conscience des envies et puis se laisser imaginer et rêver ce qu'on a envie de vivre. D'accord.
Voilà.
C'est vrai que ça peut paraître un peu comme ça abstrait, mais pour pouvoir concrétiser les choses, d'abord, il faut bien les avoir imaginées à un moment ou à un
Absolument,
autre.
Absolument, oui, tout à fait. Oui.
Alors toi, Patricia, tu as une enfance particulière, puisque tu as été élevée par tes grands-parents.
Oui.
Tu m'as dit que tes parents n'étaient pas dans la possibilité ou le désir de s'occuper de toi.
Voilà, c'est ça.
Et tu as été très tôt, enfant, attiré par les arts.
Oui, oui, oui.
Parce que déjà en cinquième, tu as gagné un concours.
Ça avait commencé avant, mais en cinquième, il y a quelque chose qui s'est concrétisé un petit peu, puisque
oui.
J'habitais dans la petite couronne de Paris.
Mm-hmm.
Et était organisée à ce moment-là par une école spécialisée qui préparait aux beaux-arts, en fait. Et ils avaient organisé dans les écoles de la périphérie de la petite couronne un concours de dessin. Hein, mm-hmm. Puisque dans cette école, on y rentrait par concours. Et forcément. Mais souvent, les gens n'étaient même pas au courant. C'était vraiment quelque chose, c'était un peu fermé, enfin,
mm-hmm.
un peu confidentiel.
Oui,
voilà.
Je comprends.
Et donc, j'ai gagné ce concours avec un garçon, je me rappelle, qui s'appelait Franco, je me rappelle. Et donc, j'avais gagné, oui, j'étais en cinquième à ce moment-là, et je devais normalement, si tout avait été sur des roulettes, y rentrer en quatrième. À partir de la quatrième, il faisait des cours, et bien sûr, tout était orienté sur la rentrée des Beaux-Arts ensuite.
D'accord. Et donc, tu étais donc une petite artiste en herbe.
Voilà.
Mais tu n'as pas pu rentrer dans cette école.
Non.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah ben ça, c'était l'histoire de famille qui faisait que, il y a le papa qui a mis le veto, qui a dit non, c'est pas un métier, ça n'amène pas à des métiers, ce qu'il imaginait, quoi.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Donc,
les artistes, c'était loin.
Qui ne s'occupait pas de toi, qui ne vivait pas avec toi, n'a pas quand même voulu que tu fasses cette école qui, pourtant, était pour toi une voie de cœur, on va
dire.
Tout
à fait. Ouais. Et puis, j'étais élevée par sa maman, en fait, parce que c'était ma grand-mère était sa maman. Et c'était son fils unique, donc c'était... quand il avait parlé. Et en plus, il avait la responsabilité de mon éducation de par la loi, quoi.
Mm-hmm.
Donc,
D'accord.
Sa parole était...
Et toi, quand tu étais comme ça au collège, tu la rêvais déjà, ta vie ? Tu l'imaginais ?
J'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Je mm-hmm. pense que c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais.
Ouais.
Et oui, bien sûr, bien sûr.
Et tu rêvais ta vie dans l'art, dans les arts ?
Oui. Oui, oui. Bon, beaucoup les enfants, parce que ça a été toujours un point très, très important dans ma vie. Je me rappelle que ma mère me disait que je ne savais pas encore marcher ou à peine. Enfin, j'ai marché, j'étais très, très tôt. Hein. Mais bon, je marchais à peine, que je courais après les poussettes et les landaus qui passaient dans la rue. Quoi.
D'accord.
Bon, donc, c'était déjà inné, hein, c'était en moi.
Donc, très attirée par les enfants et très attirée par tout ce qui était artistique.
Voilà.
Pendant un moment, tu as même voulu jouer au piano.
Oui, alors, parce que j'ai fait quand même 4 ans de solfège. Et j'avais une prof qui était super, Madame Viossa, je me rappelle encore de son nom, et je la vois encore physiquement, c'était une belle femme en plus.
Mm-hmm.
Et elle trouvait que j'avais une oreille, et que je me débrouillais bien en cours avec le piano. J'ai de grandes mains, voilà, on m'avait dit, je couvrais pas mal de, voilà, enfin bon, peu importe. Et elle, c'était, elle, bien sûr, elle était dans la musique, son mari aussi était chef d'orchestre, accordeur, enfin bon. Et elle m'avait dit, moi j'écoute, je t'ai trouvé un piano droit, que dans un appartement, il n'y a pas de souci. Mon mari te l'accorde, le réaccorde. Il y aura juste peut-être quelques touches de nacre à rajouter. Et voilà. Et autrement, tu l'as et tu pourras faire.
C'est donc une sacrée chance d'avoir un piano gratuitement.
Elle s'est déplacée chez moi. Ouais. Pour proposer ça à mes grands-parents. Et puis voilà. Le problème a été encore le même. Bah, ça faisait du bruit. Enfin, bon.
D'accord. Donc, voilà. Donc tu n'as pas pu mener à bien tes études de piano.
Non, ni de violon, puisque le violon a suivi après, parce qu'elle a dit le violon, c'est plus petit, ils vont peut-être vouloir. Mm-hmm. Moi, ça m'a fait très peur, parce que aller dans un cours de piano, pour les premiers cours de piano, quand on entend ce que ça donne, ça fait très peur, parce que c'est vraiment très grinçant. Mm-hmm. Mais bon, voilà, moi j'étais prête à tout pour essayer de... Mais bon, voilà, bon, ça n'a pas fonctionné non plus.
D'accord.
Voilà.
Donc, enfant, tu gardes tout ça dans un coin de ta tête, dans un coin de ton cœur, j'imagine.
Ah oui. Ah oui.
Et puis la vie continue, la vie s'écoule. Et dans la réalité des faits, bon, tu as 17 ans, tu rencontres un garçon, tu te maries.
Voilà.
Et puis vous allez avoir votre premier enfant très rapidement.
Oui, enfin, j'avais 21 ans quand même.
D'accord. Voilà. Alors, quelques années plus tard, je corrige. Ton mari est boucher.
Oui.
Et ben, y a besoin de quelqu'un pour travailler à la boucherie, donc tu vas travailler avec lui.
Je suis, bien sûr.
Donc ça n'a rien à voir avec une carrière artistique.
Très terre à terre, là, c'est quand même très... Voilà.
Donc très rapidement, arrivant dans ta vie, on peut considérer que tu es tombé de création artistique, parenthèse.
Ah oui, complètement, oui. Bon, je dessine tout le temps, hein, quand même, dès que mes mains vont automatiquement, voilà. Mm-hmm. Mais effectivement, oui, je suis obligée de faire ce que j'ai à faire dans le quotidien, et c'est le quotidien qui rattrape. Hein.
Ouais. Et le quotidien, c'est les enfants, c'est le mari, c'est le travail du mari que tu assistes. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire que, comme beaucoup de femmes, tu vis tes premières années, tes premières décennies, un peu par procuration? À travers tes enfants, à travers la passion de ton mari.
Je dirais pas ça vraiment. Non, c'est plutôt par mimétisme.
D'accord.
Parce que j'ai été élevée par une grand-mère. Mm-hmm. Et forcément, même si elle était très moderne dans sa tête, elle vivait la vie des femmes de cette époque qui était dans l'esprit, on suit le mari, on suit, oui. Voilà. Donc c'était un peu plus du mimétisme, je dirais.
D'accord, ouais. C'était un schéma, c'était ton schéma qui venait de ton éducation.
C'était l'exemple que j'avais, oui.
D'accord. Alors pour illustrer ce passage de ta vie, tu as choisi d'écouter Elvis.
Oui.
Et le titre du morceau que tu as choisi est évocateur, « If I Can Dream ».
In a world
I Can Dream, Elvis. Alors pourquoi tu as choisi d'écouter Elvis, Patricia ?
Bien, d'abord, je suis une grande fan de par sa voix, parce que c'est vraiment sa voix. Bon, parce qu'il y a des périodes de sa vie ou des périodes de musique qui sont plus ou moins intéressantes, mais sa voix est restée la même et était magnifique. Et puis, en analysant les choses, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'apprécie. Mais c'est vrai qu'il représente le côté de l'homme représenté comme le père, quoi. Voilà, c'est ça en fait, parce que il a vraiment cette image-là. Hein.
C'est l'image du père pour toi, la figure masculine.
La figure masculine, voilà.
Ouais. Quand tu étais jeune, t'avais pas forcément une référence masculine. Tu te l'es faite toi toute seule, et c'était Elvis.
Voilà, tout à fait. Bah, il est à peu près de la génération de mes parents, hein, donc oui, ça collait tout à fait.
D'accord. Et puis la voix, t'es très sensible aux voix.
Ah mal, je trouve que c'est le plus bel instrument qui puisse exister.
Ouais. Et à la musique d'une façon générale.
Et à la musique, bien entendu.
Alors tout à l'heure justement, on parlait de ton envie d'apprendre à jouer au piano. Tu n'as pas pu.
Non.
Mais tu me disais, en fait, depuis toute petite, tu restes pas sur le négatif, sur les noms ou sur les échecs ou sur ce qu'on te contraint à faire. T'essayes de trouver le positif en tout et de regarder quel enseignement tu peux en tu peux en retirer.
Passer le moment de colère quand même, parce que faut quand même, je ne suis pas toute douce et toute, mais bon, il y a un moment où on se dit mais très vite, oui, il faut passer à autre chose et il faut en tirer des leçons, en fait, dire voilà, qu'est-ce que je peux faire tout de même avec ça? Qu'est-ce que je peux créer avec ça?
Ouais. On m'a pas autorisé à faire du piano, mais qu'est-ce que je peux quand même faire avec ça?
Voilà.
D'accord.
Bien sûr.
Alors toi, tu t'es construite sur cette idée-là qu'il ne fallait pas rester sur un non, hein, et que les expériences négatives, il fallait en faire quelque chose. Alors, pour l'histoire quand même, qu'on comprenne tout, tu as eu un premier mari, une première enfant, une fille aînée,
voilà.
C'est ça? Et puis ensuite, tu t'es séparée de ce premier mari.
Oui.
Tu en as eu un deuxième, avec qui tu as eu deux autres beaux enfants. Et puis...
Trois enfants.
C'est justement à l'arrivée du quatrième enfant, puisque tu avais une première fille,
voilà,
que tu décides de faire passer ce message-là, qu'il ne faut pas rester sur du négatif, mais qu'au contraire, il faut le transformer pour imaginer sa vie.
Voilà. D'accord. Notre soi, on peut avoir sa propre histoire. On n'a pas besoin. Il ne faut surtout pas répéter l'histoire des générations précédentes, surtout si elles sont négatives, naturellement. Il faut faire sa propre image et sa propre personnalité, c'est important.
Donc ça veut dire que tu avais conscience que tu étais marquée par un passé familial,
oui,
et que tu avais la possibilité de te dégager de ce schéma.
Ah oui, absolument. Il le fallait absolument, quand on est maman déjà. Dis-moi, je veux pas transporter moi ce boulet et au risque de le leur transmettre aussi, parce que c'est ce qui se passe. Et non, surtout pas. Il faut que moi, j'imagine ma vie pour que eux puissent être libres aussi.
D'accord. Donc, en préparant l'émission, tu m'as dit, quels que soient les problèmes des adultes, il y a toujours un moyen, en tant qu'enfant, ou jeune adulte, ou adolescent, de s'en sortir.
Oui, oui.
D'accord.
Après, chacun son chemin. Chacun va trouver sa voie. Mais il faut surtout faire voir que c'est possible. Et des gens, parce que je ne suis largement pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Mais voilà, c'est il faut pouvoir montrer que c'est possible. Mm-hmm. On ne s'arrête pas à ça. Il faut pas s'arrêter à ça. Il faut pas non plus garder des ressentiments. Ça ne sert à rien. Ça fait que pourrir un peu l'existence. Il faut avancer, c'est tout.
D'accord. Donc, comme ce message est très fort pour toi,
oui,
tu décides de le donner à d'autres enfants. Mmh. Et tu t'installes, tu deviens famille d'accueil, oui, pour donner ce message aux enfants que tu vas accueillir.
Oui, tout à fait, c'est ça.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de famille d'accueil ?
Eh bien, déjà, c'est un métier difficile, faut même le préciser. Il faut surtout ne pas partir parce que moi j'avais réalisé, c'est pour ça que j'ai attendu, je pense, mon quatrième enfant. Moi j'avais réalisé ma vie de femme et de mère. Mm-hmm. Je n'ai absolument pas pris ce travail-là. Enfin, c'était un travail pour remplir quelque chose d'une maternité incomplète ou quoi que ce soit.
Oui.
Bien au contraire. Mm-hmm. Bien au contraire. On n'est pas là pour remplacer les parents.
Oui.
Mais pour montrer autre chose que la vie, elle peut être autre. Et qu'on a le droit de se libérer d'une histoire trop lourde.
D'accord. Donc tu vas recevoir comme ça, enfin toi, mais également ton mari et puis tes enfants, toute la famille.
Oui, la famille.
Vous allez recevoir comme ça de nombreux enfants.
Oui.
Donc certains restent longtemps, d'autres
plusieurs années, d'autres quelques mois. Mm-hmm. Enfin 2 mois, je crois le moins.
D'accord.
Voilà, après tout dépend comment les choses se passent pour eux. Et quelle est leur histoire et les solutions à leur histoire.
D'accord. Et donc, ces enfants-là, tu vas leur donner le message qu'on peut imaginer sa vie autrement que dans le schéma dans lequel on est arrivé.
Absolument, oui.
Et ça fonctionne ? Tu as l'impression que tu arrives à donner ce message ?
C'est excessivement difficile parce que ce sont souvent des enfants qui sont enlisés hein, dans leur histoire. Mm-hmm. Et puis, il faut pas oublier qu'ils aiment leurs parents, hein, quel qu'ils soient et quel que soit le problème.
Bien sûr.
Et c'est bien normal. Qu'il y a beaucoup de fidélité aux parents.
Donc, oui, de loyauté, ouais.
De loyauté. Donc, il faut surtout pas penser qu'on est... Parce qu'au départ, quand on commence ce métier, tout le monde commence par là. On croit qu'on a une petite cape sur le dos et qu'on va tout régler et qu'on est super héros. Et... Non, mm-hmm. non, c'est pas ça la réalité. Mais je me dis que de toute façon, quoi qu'il en soit, parce qu'ils partent de chez nous... Bon, j'ai eu quelques jeunes adultes, mais voilà, c'est encore autre chose. Mais ils partent souvent encore adolescents ou voilà. Mais ils partent quand même avec quelque chose. Ça reste imprégné, quoi qu'il en soit.
Tu as remarqué qu'ils retenaient ce message.
Ah oui.
Un bout du message.
Voilà, un bout du message. Toujours pareil. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Et peut-être que c'est pas sur le moment là qu'ils vont s'en servir.
Ouais.
Mais après, dans leur vie d'adulte et selon leur rencontre aussi. Et voilà.
D'accord. Alors tu disais qu'une famille d'accueil n'est pas là pour faire des enfants accueillis ses propres enfants, bien évidemment.
Surtout pas.
Mais est-ce que tu es resté en contact avec certains enfants ?
Avec certains, oui, avec certains. Il y en a qui m'ont rappelé très longtemps et qui me donnaient de leurs nouvelles. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Bah heureusement, ça fait quand même parce que ce ne sont pas nos enfants, mais ce sont des personnes et avec qui on a vécu et voilà, il y a du lien hein, de toute façon. Bien sûr qu'on crée du lien.
Ouais.
Il faut bien faire attention aux liens que l'on crée parce que pour ne tromper personne, parce que des très jeunes enfants aussi, il ne faut pas les tromper sur ce que l'on est par rapport à eux.
Ouais.
Et justement bien resituer parce que leur histoire est ce qu'elle est, mais elle leur appartient. Donc on va certainement pas la leur enlever.
Mm-hmm.
Et ils ont droit d'avoir une maman, un papa, peu importe la défaillance ou non, ou l'absence ou non. Mais voilà, il ne faut surtout pas les tromper.
D'accord.
Pas de mensonges, surtout.
Est-ce que quand tu étais petite fille au collège et au lycée, que tu rêvais ta vie, tu avais imaginé d'être famille d'accueil ? C'était déjà un rêve pour toi que tu concrétisais ?
Je ne connaissais pas vraiment le concept.
Mm-hmm.
Mais m'occuper d'enfants, oui.
Oui.
Bien sûr, bien sûr.
D'accord, c'était la petite fille qui courait après les landaus dont tu nous parlais,
voilà, oui, oui.
Qui était en train de concrétiser quelque chose déjà à ce moment-là.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
D'accord. Donc tu vas être famille d'accueil, maman d'accueil pendant 10 ans, à peu près dans l'Aveyron,
oui,
parce que tu avais changé de région à ce moment-là. Et puis comme tu le disais en préambule, c'est un métier qui est difficile, hein, qui est lourd, et tu décides de passer à autre chose après 10 ans.
Mm-hmm.
Et en conscience, tu décides de t'appliquer à toi-même le message que tu leur as donné pendant 10 ans.
C'est ça.
Et donc d'imaginer ta vie et en plus de l'imaginer, de la créer.
Mm-hmm, c'est ça, de la rendre réelle, oui, voilà, oui.
Alors ça passe par quoi? Comment, c'est quoi la première étape quand on se dit ben voilà, moi j'imagine ma vie et je la crée et ça commence maintenant?
Ben, ça a commencé par, puisque la base c'était tout de même la peinture.
Oui.
Donc j'ai beaucoup peint pour moi. Uh-huh. Et puis forcément après ça se sait. On voit des choses, il y a des gens qui voient. Et puis je me suis rendu compte que ah, ça peut intéresser des gens ce que je fais. Et ça a commencé comme ça.
D'accord. Donc au départ c'était de la peinture, mais en loisir pur, quoi, pour te faire plaisir.
Oui, pour me faire plaisir. Mais enfin, c'était quand même assez présent. Hein. C'était vraiment assez important. Pour ce qui est des bijoux, bon ben, j'ai toujours fait mes bijoux. Enfin, j'ai toujours bidouillé. Comme je dis, voilà, j'ai toujours touché à plein de choses. Et les bijoux, ben, ma féminité fait que je me faisais mes bijoux, je faisais aux copines. Mm-hmm. Et j'ai rencontré les pierres après, donc avec tout ce qu'elles ont d'intéressant. Les pierres semi-précieuses, oui, avec la lithothérapie, etc. Donc je me suis pas mal renseignée là-dessus, j'ai pas mal lu, mm-hmm. Ça m'a beaucoup intéressée. Les bijoux sont devenus des bijoux en pierre.
D'accord.
Voilà, parce que même quand j'ai un bijou... même offert et c'est des pierres ou c'est des perles, voilà, je change et je mets des pierres.
D'accord, tu te le personnalises.
Ah hein. Oui, je voilà, c'est même maintenant pour moi, voilà, c'est comme ça, c'est je porte des pierres.
Donc tu es arrivée à une étape de ta vie, si je comprends bien, où tu ne te mets plus entre parenthèses,
voilà,
mais où tu te mets au centre de ta vie.
Tout à fait. Et puis je me suis là, j'ai vraiment réussi à m'imposer en fait. Voilà, je suis comme ça. Mmh. Parce que mon second mari, je l'ai suivi aussi dans son métier, puisqu'il était cuisinier, on a eu des cafés, restaurants, etc. Oui. Avant que je sois famille d'accueil.
Oui.
Et bon, là, j'ai commencé à faire quelque chose pour moi en tant que famille d'accueil, enfin pour moi, pour les autres, mais qui me ressemblait. Mmh. Et ensuite, ben, c'était une autre étape, et là, c'est, ben, je fais vraiment, c'est une plénitude, en fait. Voilà, je suis arrivée à quelque chose de plein, je suis pleine, voilà, c'est ouais. Ça, je suis, voilà.
Alors, pour arriver à la plénitude, pour arriver à faire ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire, il faut s'accorder du temps.
Il faut s'accorder du temps, il faut s'imposer.
Mm-hmm. Donc, ça veut dire s'imposer, ça veut dire que tu te fais ton agenda et tu dis, bon, ben voilà, aujourd'hui, je m'accorde 2 heures à peindre ou 2 heures à faire des bijoux.
Voilà.
D'accord. Mm-hmm. Donc, ça passe par de la rigueur, une forme de rigueur.
Oui, bien sûr, oui. Oui, et puis s'imposer aussi à la famille, aussi aux autres qui comprennent pas toujours, dire mais d'où ça, parce que ils savaient que je faisais, mais ils prenaient ça, voilà, c'est du loisir, mm-hmm. Comme on tricote ou comme je ne sais pas quoi, enfin voilà. Et je dis, non, ça va plus loin pour moi, c'est moi.
Oui.
Voilà.
Quand on a passé comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans à se dédier aux autres personnes, à être surtout au service, on va dire,
oui, en quelque sorte, oui.
Entre guillemets, oui. Des autres, effectivement, ensuite, l'entourage peut avoir du mal à comprendre que tout d'un coup, on a envie d'abord de servir ses propres besoins.
Ah oui, c'est pas toujours... Bon, j'ai eu à passer aucun problème avec ça, mais enfin, il a fallu que j'explique et que j'impose. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Alors, on va écouter un deuxième extrait, une deuxième chanson que tu as choisie. C'est encore un homme que tu aimes beaucoup. Il s'appelle Julien Clerc et la chanson, c'est Utile.
À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver. Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue, même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus, même si c'est moi qui chante à n'importe quel coin de rue. Je veux être utile à vivre et à rêver. La, 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 la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée? Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée?
Utile, Julien Clerc. Alors, qu'est-ce que tu peux m'en dire de cette chanson, Patricia?
Allez, c'est une très belle chanson. Et puis bon, elle dit bien ce qu'elle veut dire, quoi. Être utile et puis à aimer, quoi, être utile à chanter, être utile à, voilà, c'est quand même des choses, c'est joli.
Ah oui. Donc là, elle illustre le passage de ta vie où tu as décidé d'être utile à toi-même, en fait, utile à tes besoins, utile à tes premières amours de petite fille, utile à tes premières ton premier besoin de créer artistiquement.
Oui. Mais et à moi, utile à moi, mais utile aussi aux autres.
Oui.
En étant, parce qu'en étant bien soi-même, on est encore plus ouvert, en fait, à l'écoute des autres.
Oui. Généralement, c'est ce que me disent beaucoup de personnes qui passent ici à l'émission ou en général dans la vie. Quand on se fait plaisir à soi-même, on s'aperçoit avec étonnement que on rayonne quelque chose ou qu'on est encore plus disponible pour les autres.
Absolument. Oui, voilà, c'est ça.
D'ailleurs, toi, tu as eu ce genre d'expérience de peindre des tableaux qui te faisaient plaisir et de voir quel impact ça avait sur les personnes. Tu peux nous expliquer?
C'est très agréable, ça, oui. Parce qu'on se dit, ah, c'est vraiment, oui, parce que des tableaux qui touchent des personnes et qui disent, mais c'est ce que je ressens. C'est là, dans cette image. J'avais même, par exemple, pour un Bouddha que j'avais fait, c'est pas très vieux. Et un petit tableau. Et Bouddha était en position de recentrage avec la main, comme ça, levée au milieu de son corps et posée sur son autre main. Et, c'est une position de recentrage. Et cette dame est rentrée dans la boutique en me disant, mais ce tableau, il a été fait pour moi. Parce que c'est la position, c'est mon geste de centrage, c'est mon geste de stabilisation. Et voilà, des choses comme ça, quoi. C'est et puis on fait un portrait, et puis quand on apporte le portrait, la personne est en larmes parce que elle trouve que le portrait, voilà. C'est vrai que on vit des choses aussi assez voilà.
Ouais.
C'est de l'émotion.
Tu dis d'ailleurs que ces moments-là, ils te nourrissent.
Ah oui, 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 absolument. Oui, c'est tout à fait le mot. C'est nourricier, oui, ça.
Donc,
ça me remplit.
D'accord. Donc, on retombe sur ce sentiment de plénitude. Ce qui te remplit, c'est le plaisir que les gens ont ou leur témoignage de bonheur quand ils trouvent dans tes créations quelque chose qui leur ressemble, en fait.
Oui.
D'accord. Donc, tu t'es libéré, comme ça, on va dire, hein, entre guillemets, dans les années 2000, à peu près, de 2004 à 2012.
Voilà.
Tu as créé, tu t'es épanoui dans différents arts, donc la peinture, la fabrication de bijoux et le mobilier en carton.
Alors là, j'ai décidé parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Techniquement, ça m'intéressait. Il y a plusieurs méthodes et il y en a une particulièrement qui m'attirait. Et j'ai décidé d'aller apprendre à le faire. Puis je me suis dit que c'était aussi un joli support pour la peinture et pour voilà.
D'accord.
Parce que mes meubles, je les peins ou c'est du papier, mais c'est souvent on les peint quoi. Et oui, je suis allée apprendre à créer des meubles.
D'accord.
Voilà.
Et comment alors on passe donc d'une Patricia qui fait ça chez elle ou un peu pour les copains à une commerçante qui a une boutique dans une rue de Montauban. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, je suis passée déjà au stade professionnel.
Oui.
Et là, j'ai fait les marchés artisanaux, les marchés de Noël, etc. Et c'est à un marché de Noël que ça s'est passé, à Montauban. Et je fais ce marché de Noël. Et là, la rue Marie-Lafont étant en réhabilitation, je dirais,
ouais.
les commerces étant libérés et voilà, étant disponibles, et les gens voyaient vraiment cette rue comme quelque chose d'une rue artiste, artisan, enfin les choses comme ça.
Mm-hmm.
Donc ça correspondait à ce que je faisais. Et ils sont venus me voir en me demandant si ça m'intéresserait de m'installer. Et j'ai pris le pari et voilà.
D'accord. Donc comme tu avais imaginé un jour de travailler dans les arts, tu as dit oui.
Voilà.
Alors, donc tu as maintenant cette boutique depuis combien de temps à Montauban?
Ça fait un an.
Ça fait un an, donc rue Marie-Lafont. Quel avantage tu y trouves d'avoir cette boutique maintenant?
C'est-à-dire que la boutique m'a beaucoup attirée par le fait aussi que j'avais la place d'y avoir mon atelier, mes ateliers, je dirais, puisque j'ai plusieurs... Donc je crée sur place. Je viens là et je crée sur place.
Plutôt que de créer chez toi.
Voilà. Mm-hmm. Je suis vraiment dans mon univers, voilà. Je me suis créé mon univers. En fait, cette boutique, c'est mon univers. J'ai plein de choses qui me ressemblent et voilà. J'ai d'autres choses que mes créations à moi. J'ai d'autres petits créateurs, mais que j'ai choisis, qui me conviennent.
Donc, tu as un espace de vente, mais tu as également ton atelier dans l'arrière-boutique.
Oui.
Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que, Quand un client rentre, qu'il est intéressé par un bijou, par un meuble en carton, par un tableau, tu peux, à la demande, personnaliser.
Voilà, tout à fait. Mais je crée du début à la fin,
oui.
Parce que les meubles, je ne fais jamais de modèles les mêmes. Hein. C'est vraiment selon la demande de la personne, et je prends une craie et un bout de carton et je le dessine sur le bout de carton et ça devient un meuble.
Mm-hmm.
Et pour le bijou, bon, étant donné aussi la lithothérapie. La lithothérapie qui intéresse quand même pas mal de personnes. Les gens choisissent leurs pierres sur place et souvent j'ai une chaise d'ailleurs dans la boutique parce que les gens s'assoient face à moi en train de créer leurs bijoux quoi.
D'accord.
Voilà.
Donc elles disent je voudrais tel type de bracelet mais plutôt qu'avec une pierre, plutôt qu'avec une turquoise, je voudrais un lapis-lazuli.
Voilà,
ou je voudrais
exactement.
Une améthyste.
Donc je lui sors mes petits tiroirs de pierres et je dis voilà, ils choisissent même leurs pierres. Voilà. Bon, il suffit bien sûr que je les ai sur place. Puis bon, selon aussi la problématique des gens. Les gens me disent, voilà, je suis un peu stressée, énervée, voilà, autre chose. C'est souvent ça. Alors bon, voilà, je vais sortir mes améthystes, mes quartz roses et on en fait quelque chose.
D'accord. Parce que tu as une formation également en lithothérapie?
Non. Comme je dis, je ne suis pas lithothérapeute. Mais je suis très intéressée et je fais profiter de mon expérience.
D'accord.
Mais ça s'arrête là.
C'est voilà. Un petit conseil en plus de,
voilà, c'est du conseil.
De la bijoutière, on va dire, l'artiste
voilà.
Bijoutière,
oui,
je
ne
sais
oui,
pas
oui.
Comment on dit, que tu es.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Et tu nous parlais du mobilier en carton, mais je me demande, ce mobilier, c'est solide?
C'est du mobilier solide, pérenne.
Ouais. On peut y mettre des piles d'assiettes et des verres dedans?
On peut, oui, ouais. On peut s'asseoir dessus, il n'y a pas de souci. C'est vraiment... Puis là, la méthode que j'ai apprise, c'est vraiment quelque chose de très... Moi, pour ça, disons que j'ai plus confiance justement en cette solidité, en cette pérennité.
D'accord.
Il y a des choses que j'ai faites, c'était pour mon neveu le plus ancien que j'ai dû faire, ça date de... il doit avoir 19 ans, il avait 7 ans, quoi, voilà.
D'accord.
Mais ça, c'était là, sans avoir l'apprentissage, mais je l'avais fait déjà.
Alors, tu nous disais que cette boutique, tu l'as depuis un an. Mm-hmm. Est-ce que tu as la vie que tu t'es imaginée?
Bien, là, je
maintenant.
Suis, comme je suis bien, là où je suis.
Ouais.
C'est vrai. Je me sens bien.
Tu me disais, je me sens à ma place. J'ai l'impression
voilà,
d'être
à
ma
place.
Place.
Voilà, c'est ça, exactement. Je me sens à ma place.
D'accord. Mais bon, on peut imaginer que en tant que commerçante, On entend les commerçants généralement qui bon ils ont des petits soucis, tout n'est pas au top.
Non tout
alors,
n'est, non.
Comment tu fais comment tu le vis ton quotidien de commerçante?
Mais c'est très difficile hein, c'est une rue qui a été un peu oubliée forcément. Mm-hmm. Et un an ne suffit pas aux gens pour se rappeler et puis il n'y avait pas d'offres. Il n'y avait pas de commerce, donc c'est normal, les gens ont déserté la rue puisqu'il n'y avait rien à y faire en fait. Hein. Donc maintenant il y a une nouvelle offre et petit à petit, eh ben on lutte pour s'accrocher et que les gens viennent nous voir. Quoi. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Donc toi, plutôt que de te plaindre et puis de te désespérer, bah, tu choisis de prendre ton bâton de pèlerin et puis de venir parler à la radio,
voilà.
Puis de faire
absolument.
Tout un tas
on
de
a créé
trucs.
Une association avec quelques collègues de la rue. Mm-hmm. On va faire une animation là le samedi 13 juin avec un marché artisanal, vide atelier, brocante culturelle. Et pour animer toute la rue, quoi, vraiment,
oui.
Pour que les gens puissent se rendre compte que ben elle vit maintenant cette rue, quoi, elle existe.
D'accord, parce que vous êtes tous des artistes créateurs dans cette rue, alors finalement?
Quasiment, oui. Bon, mm-hmm. Il y a quelques autres choses, mais oui, puisque il y a le fauteuil qui fait le, vous savez, la réfection de fauteuil là, de.
Ouais.
Le monde me vient pas, mais enfin voilà.
Tapissier, non, on appelle
voilà,
pas ça tapissier,
tout
ouais.
Tout à fait, oui. Il y a des créatrices bah, de bijoux, il y en a d'autres que moi. Il y a dans ma bulle, il y a les fantaisies de MC. Il y a Picotti Picotta qui elle fait tout ce qui est enfant en tissu, etc.
Mm-hmm.
Et bon, voilà, il y a une parapharmacie qui s'est ouverte aussi, qui est un autre domaine, mais bon, voilà, il y a un tatoueur. Le tatoueur, c'est quand même aussi artistique, hein.
Ouais.
Voilà. Enfin bon, vous voyez, il y a vraiment plein de choses à découvrir et encore à venir, quoi.
D'accord. Donc vous êtes nombreux à vous bouger pour que cette rue
oui,
existe
bien sûr.
Commercialement
bien sûr, oui.
Et attire le maximum de passages.
Voilà.
Alors Patricia, tu as 59 ans.
Oui.
Tu es grand-mère 3 fois.
Oui.
Tu pourrais te dire que pour toi, c'est le moment de prendre la retraite. Comment oui. Où est-ce que tu en es avec ça?
Ben la retraite, elle viendra sûrement.
Oui.
Mais elle sera toujours avec des cartons, des tableaux et des bijoux. Hein. Ça, c'est clair. Je ne pourrai jamais arrêter ça. Ou alors, il faudrait vraiment que physiquement, je ne puisse plus.
Mm-hmm.
Mais non, ça fait partie de moi.
La création est trop importante pour toi.
Ah oui.
Tu as l'impression que pendant une première partie de ta vie, tu en as été un peu privée? Ou c'est pas comme ça que tu
l'es? Non, parce que je l'ai vécu. Bon, voilà, c'était comme ça. Et puis, voilà. Et j'ai toujours dessiné, j'ai toujours à l'école, bon ben au cours de maths que j'aimais pas trop, mais je faisais les portraits des profs, des copains, des copines, et voilà, j'ai toujours et j'ai jamais arrêté ça.
Ouais, ça veut dire que même si on n'est pas arrivé à rentrer dans l'école des beaux-arts qu'on voulait faire, même si on n'a pas pu faire des cours de piano comme on voulait, il est toujours possible quand même de faire quelque chose qui se raccroche à son besoin premier, à sa motivation première.
Mais heureusement, hein. Oui, bien mmh. sûr. On n'est pas obligé de passer par quelque chose de... un bâtiment officiel qui va vous voilà c'est soi qui compte, c'est ce qu'on a dedans, ce qu'on a en nous à faire sortir, peu importe la façon.
Oui.
Mais voilà, on le fait sortir, il faut que ça puisse se concrétiser. Oui, bien sûr.
D'accord, même si c'est que pour soi au quotidien.
Oui, mais bon, comme je dis au départ, quand j'ai peint pour moi.
Mm-hmm.
Mais automatiquement, ça a touché quelqu'un et c'est toujours comme ça, je pense, quel que soit le domaine.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu touches tes petits-enfants.
Oui.
Tu me dis que c'est eux qui te, parfois, qui t'emmènent à la création parce qu'ils te demandent des choses.
Oui, bien sûr, oui. Oui, et les trois, hein, que ce soit Dylan qui a 12 ans ou les petites qui ont 3 et 4 ans, Margot et Héloïse, oui, bien sûr, ils me. Bon.
Qu'est-ce qu'ils te demandent? Qu'est-ce qu'ils demandent à leur grand-mère?
Ah ben, bien sûr, on dessine.
Ouais.
Et ça, tous les enfants aiment dessiner. Et quand, par exemple, ben j'ai eu l'occasion là récemment, ben c'était au moment où il y avait du carnaval, donc c'était en février, et j'ai donc changé la vitrine de la boutique. Et donc je préparais mes décors, donc je faisais des masques. Et à cette occasion-là, j'étais avec mon petit-fils qui a donc 12 ans. Et ben il a fait les masques avec moi. Il était très fier quand je lui ai envoyé les photos de la vitrine avec ses masques et tout. Enfin bon voilà. Et puis, en plus, on a même voulu me l'acheter. Je lui ai dit, non, non, c'est pas à vendre. J'ai dit ça. Alors, il était très
celui-là,
fier.
Celui-là, il a une valeur sentimentale.
Absolument. Enfin, voilà. Puis bon, les filles, en fait, bah, c'est pareil. Elles font leurs petits bijoux. Elles sont toujours derrière moi, pour, sortir les tiroirs, les perles et les choses. Mm-hmm. C'est normal, hein. Et
ça, voilà. c'est un bon conseil positif à donner aux grand-mères, qu'elles soient artistes dans l'âme ou pas.
Oui, peu importe.
Créer avec les petits-enfants.
Ah oui, oui, c'est un véritable plaisir.
Alors Patricia, tu nous proposes une dernière pause musicale. Mm-hmm. On change complètement de registre.
Oui.
Cette fois-ci, on part avec Philippe Jaroussky et j'essaye de donner le titre de ce qu'il chante, Lakia Kyopianga. Jaroussky chante Handel. C'est un extrait choisi par Patricia Reynal, mon invitée dans Onde Positive aujourd'hui. Alors Patricia, pourquoi tu as choisi d'écouter Philippe Jaroussky?
Parce que je suis très très sensible à sa voix. Je trouve que sa voix est angélique.
Ah ouais.
Ah oui oui, c'est vrai, c'est voilà. Comment dire, c'est vibrant.
C'est vibrant, elle te fait vibrer.
Voilà, oui, tout à fait.
Donc ça illustre bien ta vie d'aujourd'hui, puisque tu t'es autorisée à faire au quotidien ce qui te fait vibrer à l'intérieur, voilà, depuis toujours.
C'est ça.
Et alors toi qui as toujours imaginé pour créer ta vie, est-ce qu'aujourd'hui encore, tu continues à imaginer ta vie d'après ?
Oh ben écoute. Oui, bien sûr. Je l'imagine, bon, toujours avec ses compagnons là de création, mais certainement en bougeant.
Oui.
Voilà, parce que j'ai envie de découvrir des choses, de voir des choses, des gens et des lieux et voilà.
D'accord. Donc tu vas être artiste, commerçante, itinérante, encore peut-être encore.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ce que j'imagine pas mal, ouais.
Alors je te souhaite un beau chemin, une belle expérience rue Marie Lafon à Montauban,
merci,
où tu es actuellement,
oui,
où on peut te retrouver tous les jours.
Oui, du mardi au samedi. Oui. Voilà, de 10h à 10h30 à 18h30, pardon.
Oui.
Et voilà.
Et donc, et la boutique atelier s'appelle Les Arts de Marie Lafon.
Voilà, Les Arts de Marie, elle, oui.
Marie oui. Lafon.
C'est bah, le, oui, c'est, ça veut dire Marie Lafon, mais je trouvais ça joli, Marie, elle.
Ouais, Les Arts de Marie, elle. Et donc, tu nous disais tout à l'heure que le 13 juin, vous organisez un marché artisanal dans la rue.
Oui.
D'accord. Un vide atelier également. Je connaissais pas cette expression.
Oui, voilà. Bah, c'est-à-dire que ça sert à la fois pour les surplus d'ateliers des créateurs, mais aussi pour tous les créateurs qui ont des choses à vendre. Et, par exemple, les artistes peintres souvent font des vides ateliers. On en aura quelques-uns et voilà.
C'est, d'accord. Ouais. Est-ce que tu vas exposer les urnes de mariage que tu fais?
Les urnes. Oui, je vais sortir mes urnes, je pense, pour montrer que c'est possible et que c'est en carton, que ça peut être quand même assez sympa.
Ouais.
Que c'est très personnalisable, puisque j'en ai quelques-unes que je peux louer, parce que j'ai un château, un pigeonnier, enfin, des choses comme ça. Mais après, on fait vraiment selon le thème du mariage, et puis après, j'accorde les décors de table, autres.
D'accord, tu fais aussi du décor de table, pour des événements, pour des fêtes.
Voilà.
Bah, ça tombe bien.
Du marque-place au petit cadeau d'invité, voilà.
D'accord, ça tombe bien, on arrive dans la saison des mariages.
Voilà.
Donc les jeunes mariés peuvent se faire une urne pour les cadeaux de mariage et leur décor de table par Patricia Reynal.
Voilà, tout à fait.
Merci Patricia pour ton énergie positive.
Ben, merci Dorothée de m'avoir accueillie.
Chers auditeurs, à vous d'imaginer et de créer votre vie. C'est possible et c'est toujours le bon moment. Vous pouvez réécouter cette émission samedi à 21h sur les ondes radio de CFM, sinon sur le podcast sur cfmradio.fr. Je vous rappelle que pour venir témoigner vous aussi de vos expériences positives, de vos messages positifs, vous pouvez me contacter par mail dorothée.alio@hotmail.com. Je vous souhaite une belle semaine créative et à mardi prochain.
CFM.
C'est bon pour ce que vous avez.
C'est bon pour ce que vous avez. CFM.
L'esprit rock.